Bon, on va démarrer concrètement les sessions de travail. Donc, cette première session, c'est une session très pluridisciplinaire, comme l'ensemble de la journée, qui va questionner sur cette dichotomie secteur public-secteur privé, avec une introspection qui vise à essayer de comprendre si cette dichotomie est dépassée. C'est une réflexion de passé, ou si plutôt elle évolue vers d'autres formes d'organisation sociale. Donc, pour analyser, explorer cette question, cet ensemble des questions, on a quatre interventions, quatre intervenants dans cette première session. Donc, on va démarrer par Denis Bailly, qui est enseignant-chercheur à l'UBO. Il est directeur adjoint de l'UMR à Mur, et il va nous présenter donc la question des incitations au cœur d'une gouvernance inclusive au service de la gestion environnementale. Puis on aura une intervention assurée par Guillaume Blanc, qui est chercheur à l'équipe d'accueil Tempora. Et son intervention s'intitule l'UNESCO, l'Éthiopie et le paysan, gouverner la nature et les sommes dans l'Éthiopie contemporaine. Ensuite, Marion Delsol, professeure en droit privé à l'Université de Rennes 1 et directrice à l'IODE, Institut de l'Ouest, Droit et Europe. Et sa présentation s'intitule « La mise en marché du risque santé ». Puis enfin, Mathieu Elly, professeur en sociologie à l'UVSQ, qui travaille à l'UMR Printemps, profession institution de temporalité. Donc, présentera l'économie sociale et solidaire comme révélateur des tensions publiques-privées vers l'émergence d'une quatrième fonction publique incarnée par le salariat associatif. Alors, on va suivre les présentations les unes après les autres. Vous avez une vingtaine de minutes pour ce faire. Et on va laisser entre présentation et présentation, pour décompresser un petit peu, 5 petites minutes si vous avez des questions brûlante qui vous tient au cœur pour une petite série d'échanges, mais on laissera autour de 30-40 minutes restant de la session pour une série d'échanges, des discussions autour de ces questions, des différentes présentations effectuées. Donc, sans transition, comme on dit, je passe la parole à Denis Bailly, s'il te plaît, Denis.
Merci José et merci à la MSHB pour cette initiative. Je suis un peu comme j'étais un peu quand j'ai ouvert pour préparer ma présentation, un petit peu comme l'étudiant qui ouvre le sujet. Je me suis dit, mais quand on m'a demandé un titre, pourquoi j'ai donné ce titre-là complètement abscon? Et donc je vais essayer de m'en sortir. Public privé. Où je suis économiste de formation, ou comme on le dirait plutôt de notre côté, administré, marchandisé, socialisé, communautarisé. Le front, plus que la frontière, pour nous est très chaude dès lors que l'on parle de questions maritimes ou d'affaires maritimes. Amur est un laboratoire historiquement de droit et d'économie de la mer, donc il a énormément travaillé sur la question de gestion, gouvernance, propriété, qui s'ouvre de plus en plus par ses recrutements aux sciences politiques, à la sociologie et à l'anthropologie. Et donc le sujet que l'on aborde aujourd'hui est, je dirais, historiquement au cœur de presque toutes nos actions de recherche. On parle beaucoup de gouvernance. Alors, on n'est pas à Amur, on n'est pas sur la question de la gouvernance dans les institutions. On est plutôt sur la question des politiques publiques et de la question de la gouvernance dans la mise en œuvre, l'élaboration des politiques publiques, ce qui est un angle aussi un petit peu différent, mais néanmoins qui utilise le même vocabulaire, la même sémantique. Quand tu parles de gestion environnementale, la gestion environnementale, pour nous, elle est comprise au sens, un sens très très large de la régulation, de l'organisation des rapports que nous entretenons à nos environnements, rapport à l'espace, surtout quand on parle de maritime, rapport aux éléments tant naturels que construits qui nous entourent. Et plutôt que de nos rapports à ces éléments, peut-être qu'il faudrait parler des rapports sociaux qui se construisent à propos de ces espaces ou de ces éléments, qu'il s'agisse de poissons, de vent pour les éoliennes ou de ressources énergétiques dans les océans. Et qu'il s'agisse aussi d'usage marchand ou, dans notre cas et dans beaucoup de cas, d'usage non marchand, qu'il s'agisse de patrimonialisation dans les aspects de règles, de normes ou d'institutions. Ce que l'on constate sur tous les sujets sur lesquels on travaille sur le maritime, c'est qu'aujourd'hui, depuis déjà un bon bout de temps, depuis peut-être, disons, les années 70, si l'on reprend la littérature sur l'exploitation des ressources marines et le rapport à la gestion de l'accès aux espaces marins, c'est qu'il y a deux questions assez fondamentales. Une, c'est la question de la gouvernance, au sens où elle était définie ici, de l'horizontalisation des rapports sociaux, et donc de passer de ce rapport administré vertical État-acteur ou État-privé, État-individu, à l'inclusion, pour prendre le titre, ce qu'il y avait dans mon titre, de l'inclusion des acteurs, des démarches participatives, pour des bonnes et de mauvaises raisons, et en fait, centralement, effectivement, la question de la démocratie et la question de qu'est-ce qui va inciter un individu, une entreprise, une filière économique à donner de la voix, à défendre ses intérêts. L'autre sujet qu'on a beaucoup vu émerger, c'est celui de non plus l'inclusion dans la décision publique, la participation, mais ce que les économistes appellent la vraie décentralisation. La vraie décentralisation, c'est donner les droits aux individus et les laisser jouer avec leurs droits par l'échange marchand. La totale décentralisation, la décentralisation intégrale. Et cette question de l'introduction des mécanismes marchands, que ce soit dans la marchandisation des droits de pêche ou la marchandisation des concessions ostréicoles, a été un front de débat, un front très très chaud et très 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 violent et qui s'étend, on va le voir, à de nombreuses problématiques. La mer est un espace qui est étrange ou étranger aux régulations terrestres. On y rencontre des questions qui ont, dans le domaine terrestre, presque disparu ou qui sont marginales. Je ne dirais pas que l'enjeu de la chasse n'est pas un enjeu politique au moment électoral important, mais la chasse en tant qu'activité économique, c'est plus grand-chose. La pêche dans les rivières aussi, c'est devenu marginal. Pour nous, en mer, ces questions dites maintenant de ressources, de gestion de ressources communes, sont des questions qui représentent des enjeux économiques, des enjeux sociaux, peut-être pas énormément dans nos sociétés, mais dans d'autres sociétés, des enjeux énormes. Et l'irruption de la logique, de la rationalité ou de l'idéologie de la privatisation bouscule des règles, bouscule des schémas, bouscule des rapports de force, des rapports politiques, et elle devient donc un espace majeur de confrontation. Alors, peut-être pour prendre un certain nombre d'images, donc l'océan, c'est 70% de la surface de la Terre. On dit que c'est 90% du volume ou de l'espace habitable pour le vivant, mais ça ne veut pas dire grand-chose, parce que veut dire l'air, le volume aérien par rapport au volume maritime ou aqueux. Mais c'est surtout des particularités, une très grande fluidité, une très grande connectivité par rapport au terrestre, si on pense en particulier au problème de pollution, qui fait que quelqu'un qui vit à la source d'une rivière est responsable de ce qui se passe au fond des océans et à l'accumulation du plastique dans les grandes failles océaniques. Une très grande mobilité des éléments naturels. Quand vous courez après le poisson, vous courez parfois avec des poissons qui tracent sur des milliers de kilomètres. et pour lesquels les frontières ne veulent pas dire grand-chose, des activités qui, elles-mêmes, vivent de la mobilité, qu'il s'agisse de la pêche ou de la navigation de plaisance, et qui sont donc rétives à l'appropriation ou à l'appropriation commune ou individuelle ou privative des espaces. Historiquement, le littoral frontière pour se protéger des invasions, la mer, espace de communication, espace d'enjeux majeurs, et la suprématie militaire sur les océans, enjeux majeurs, et donc l'espace maritime comme espace par essence de l'autorité publique et de l'État. Qu'il s'agisse de la domanialité, que nous connaissons nous uniquement sur le fond de la mer, qu'il s'agisse du droit de la mer, du droit international de la mer sur les océans, des constructions où l'État, la puissance publique, ou les puissances publiques et la confrontation des intérêts portés par les puissances publiques sont centraux. Et à côté de ça, parce qu'il y a peu d'intérêt, peu de valorisation, plein de choses, la colonne d'eau, les poissons, qui dans plein de contextes juridiques sont choses nulles, res nullius au sens du droit romain, et donc personne ne dit qui est responsable, personne ne dit qui a droit, et puis, au-dessus de tout ça, une culture, une philosophie de la liberté des mers qui rend complexe la question de l'appropriation. Alors, je voudrais juste passer en revue pour la discussion quelques exemples en prenant un petit peu le fil historique de l'émergence des questions. Donc l'accès au bord de la mer, la domanialité, le domaine public, l'espace maritime, l'État, la confrontation militaire, puis la socialisation du problème, la politisation du problème, la judiciarisation du problème et l'émergence du droit de la mer, la convention du droit de la mer, la création des zones économiques exclusives, la création d'une autorité qui aujourd'hui vous donne le droit des concessions temporaires pour aller exploiter les ressources minérales dans des profondeurs de plusieurs milliers de mètres. Tout ceci est une partie de l'histoire qui est énormément en mouvement, et puisque ces choses-là aujourd'hui, on le verra au final, sont en négociation encore, en forte négociation à New York avec des débats et des intérêts très très contradictoires en jeu. Un exemple, celui des concessions conchylicoles que nous connaissons bien, l'inaliénabilité du domaine public maritime, c'est-à-dire l'interdiction de privatiser le fond de la mer et la partie, je dirais, un peu émergée de la plage et un petit peu au-delà dans notre contexte national ici, confronté à la question du fait que certaines personnes demandent des restrictions d'accès pour faire des moules, des huîtres, etc. Donc depuis, disons, le 19e siècle, avant s'est posée la question, on pourrait remonter avant, et la question du sel et des salines, mais là on était en terrestre, ça se résolvait de manière un petit peu plus dans le cadre du droit terrestre, de la propriété, surtout féodale. Mais face à ça, au 19e siècle, un petit peu avant, on a dû inventer des formes de droit. Et donc on rentre dans ce que les juristes, nos collègues juristes, je suis économiste et je m'excuse par avance pour les imprécisions bien connues des économistes quand ils utilisent des termes juridiques, le démembrement du droit complet, du droit romain, le démembrement du droit et le fait de ne pas donner le droit d'aliéner ou l'usus, mais de donner uniquement le fructus ou l'abusus, enfin le démembrement du droit, et donc on invente des systèmes de concession. On invente des systèmes de concession, on se base ça sur une juridiction qui date de Colbert, qui est un petit peu ancienne, mais bon, dans le 19e siècle, on crée ça et on dit inaliabilité, interdiction de vendre, gestion administrée, on vous donne un droit, on vous le retire, on le donne à quelques autres. Et puis, évidemment, l'économiste sourit en disant... Qui dit rareté dit demande d'appropriation, qui dit propriété dit valeur, qui dit valeur dit échange, et qui dit échange dit marché. Et quand le marché n'est pas légal, il est noir. Donc on a un marché noir des concessions, et dans le bassin de Marennes-Oléron, on échange des concessions à l'art au prix du meilleur cru de Bordeaux, dans les zones les plus productives. Donc à un moment, il faut moraliser tout ça, et donc dans les années 80, on réfléchit, on produit quelques décrets et on invente des artefacts juridiques. En fait, on crée de la vraie propriété privée avec droit d'échange, avec valeur reconnue, mis sur la table, mais qui n'est pas un droit de propriété, qui est juste une compensation pour la mise en valeur. et puis qui, comme ce n'est pas un droit de propriété, n'est pas taxé. Mais est enregistré quand même par les notaires comme propriété au moment où il faut parler de succession, de transaction et de prêt. Donc cette propriété-là qui arrive. Le sujet central en mer sur la question gestion administrée et privatisation, c'est bien évidemment la question de la pêche. Pêche ressources communes, confrontée au problème, non pas de la tragédie des communs de Harding, mais du dilemme de la coopération dans les communs, c'est-à-dire la nécessité de coopérer pour que le bénéfice, que chacun jouisse du potentiel de bénéfice global de la ressource, sans que ceci soit, disons, mangé ou éliminé par la concurrence, exacerber la concurrence pour la ressource, et donc la gestion administrée qui va vers ce qu'on appelle la gestion des pêches à base de droits, les droits de pêche, qui sont soit des droits territoriaux, soit des droits basés sur les moyens de production, c'est-à-dire on a le droit ou on n'a pas le droit d'avoir un bateau, d'avoir un filet, etc., soit sur les droits sur la ressource, on a le droit de pêcher tant de tonnes de poissons. Et donc, rareté, création de droits. Qui dit création de droits dit nécessairement incitation à l'échange de droits. Celui qui crée le plus de valeur avec un droit va avoir son droit à avoir de la valeur, il va tendre à avoir de l'argent, il va acheter le droit de son voisin moins efficace, et ainsi de suite, va se faire une sorte de sélection naturelle que les économistes aiment bien, liée à l'échange, et donc les économistes vont dire mais il faut faire des marchés de droits. Et donc on fait des marchés du jour de mer, des marchés de licences de pêche, des marchés de quotas de pêche, et cette transformation d'une gestion soit administrée par l'État dans nos États dits modernes ou industrialisés, soit gérée de manière communautaire, traditionnelle dans d'autres endroits, on propose la marchandisation et le marché, il fait ce qu'il fait très bien, ce qu'il sait très bien faire. C'est une énorme restructuration des droits, des bénéfices, de l'accès, et donc l'anticipation de cet effet restructurant des rapports sociaux, évidemment, crée a priori une énorme résistance, et donc on a des batailles homériques, d'abord entre chercheurs en sciences sociales, parce que c'est là où on sait mieux le faire, et puis ensuite sur le terrain, entre pêcheurs et chercheurs, entre l'État et les chercheurs, et puis on s'amuse à trois, et on s'empaille depuis 30 ans, avec ceux qui montrent les exemples où le marché a créé de la richesse de manière énorme, a sauvé l'Islande de la misère, et les endroits où le marché a tout tué, a tout déstructuré, et en particulier les communautés locales, les petites communautés locales islandaises. Donc on a là un débat très très intéressant. Et puis est venue la question de, évidemment, les pollutions. Les pollutions, comment faire cela? Donc les droits à polluer, les marchés de droits à polluer, bien connus. Donc on retrouve les marchés de droits à polluer. Mais les marchés de droits à polluer, si peut-être ils sont moins contestés dès lors qu'on a affaire à des activités industrielles qui comprennent très bien l'idée de la patrimonialisation du potentiel de la nature à recevoir des émissions, et donc de la capitalisation au sens du patrimoine, du capital de l'entreprise, de la valeur que l'on peut vendre, du droit, le problème de ces marchés, c'est qu'ils sont techniquement très difficiles à mettre en œuvre parce que très difficiles à contrôler. Donc le concept est joli, mais son opérationnalisation est très très difficile. Donc on arrive, on le met en œuvre, on en parle beaucoup pour l'air et pour les émissions de gaz à effet de serre, on le fait un peu pour les émissions dans les rivières, mais les marchés de droits, ici on connaît beaucoup la question des nitrates et des algues vertes en Bretagne, hein, donc certains collègues qui sont peut-être ici quelque part écoutent cette conférence, ont évoqué la question pour les producteurs d'animaux, en particulier les producteurs de cochons, de marchés de droits à la production de nitrates, un quota de nitrates en fonction de la capacité d'absorption des milieux, mais on en est encore loin. Et on avance aujourd'hui vers l'émergence d'une nouvelle approche qui s'appelle l'approche écosystémique. Et en fait, c'est de dire que la somme des régulations des activités, des secteurs par rapport à leurs impacts environnementaux ne réalise pas ce qu'on en attend en termes de biodiversité, de ce que nous appelons le bon état écologique des milieux naturels et en particulier de l'océan. Et donc, on prend maintenant les choses avec la directive cadre sur l'eau, la DCE, ou la directive cadre stratégie pour le milieu marin, de manière différente. On définit quel est le bon état que l'on veut, le bon état écologique, la biodiversité, l'état des habitats que l'on veut, et à partir de là, on en déduit des régulations sur les activités, et cette régulation par les activités se pose de manière centrale la question de la gouvernance. C'est-à-dire, on est dans le transsectoriel, dans le multisectoriel, dans qu'est-ce que la société veut. Le bon état écologique, non pas comme un produit de l'expertise scientifique, mais comme un produit d'une construction sociale, d'une négociation sociale. Comment met-on cette négociation sociale qui dit aujourd'hui, et nous le faisons tous les 6 ans, c'est en débat public, le débat public est fini aujourd'hui d'ailleurs, on a produit pour chaque façade maritime une sorte de produit d'une négociation qui n'est jamais un consensus. Il y a des perdants et des gagnants. Le produit d'un consensus qui définit ce que l'on pense qui devrait être le bon état écologique. Et la question, c'est comment on a les acteurs autour de la table pour que cette production-là ne soit un instrument de la mise en œuvre d'une politique publique et d'une action individuelle efficace, et non pas la création d'un lieu de bataille qui empêche au contraire toute l'action. Et là, on est sur la question de la dimension de la gouvernance. Les deux derniers points que je voudrais évoquer avec vous, c'est que l'océan, depuis crise de 2008, syndrome de 2008, l'Europe et le monde entier se disent la question majeure, ça n'est plus l'environnement. On a basculé là depuis quelques mois, mais la question majeure n'est plus l'environnement, la question majeure c'est la croissance et c'est l'emploi. Dernière frontière de la croissance, c'est l'océan. L'océan est plein de potentialités non valorisées de croissance et de création d'emplois. Et il faut donc créer des activités. Sauf que la plupart des activités que l'on veut créer, de l'aquaculture, des énergies marines renouvelables, de l'exploitation offshore, sont toutes des activités qui nécessitent de la réservation d'espace et de l'exclusion, contradictoire avec les usages traditionnels qui ont besoin de la mobilité, la pêche, la plaisance. Donc on crée un espace de conflit dans lequel on dit il faut créer des incitations pour que les investisseurs privés, déjà confrontés à la question du surcoût énorme de l'investissement en mer, exposés à des risques absolument majeurs, à des surcoûts par rapport au terrestre, énergie marine, etc., renouvelables et autres. Il faut créer des incitations. Créer des incitations, c'est créer des droits. Et donc on réinvente la question des concessions conquilicoles pour tout le monde et on fait de la planification de l'espace maritime, qui est le grand sujet à la mode sur lequel on bosse tous et le monde entier bosse. Il faut faire de la planification de l'espace maritime comme on fait de la planification à terre. Sauf qu'en mer, on ne crée pas comme ça des droits privés. Parce que dans tout droit privé, il y a ce que la Constitution française appelle de la transappropriation, c'est le fait que l'eau traverse les terrains privés, les oiseaux et les gibiers traversent les terrains privés, il y a de la transappropriativité, et que cette transappropriativité, elle est prégnante, elle est très prégnante, et qu'on ne sait pas la penser et la construire, et donc on crée, là aussi, dans une démocratie plus inclusive et de gouvernance, on crée beaucoup plus d'espaces de conflit et de tension que d'espaces de négociation. Et le dernier exemple que je voudrais apporter aujourd'hui, c'est un des derniers fronts où la discussion entre public et privé est très chaude, dans le cadre de la Convention des Nations Unies pour le droit de la mer, des conventions de Montego Bay, est en discussion depuis une dizaine d'années le fait que la haute mer, au-delà des 200 000, au-delà de ce qu'on appelle les zones économiques exclusives, il y a un espace qui est encore un espace très ouvert, de libre accès, mais sur lequel il y a de plus en plus à la fois de revendications, que ce soit aller pêcher les ressources qui traversent les océans, que ce soit aller chercher au fond de la mer, mais aussi il y a de plus en plus de revendications en termes de protection, de conservation, ce qu'on appelle des aires marines protégées, et de valorisation de ce qu'on appelle les ressources génétiques. Donc il y a une négociation qui s'est ouverte à New York il y a un an et demi, qui en théorie devrait finir l'année dernière, mais qui ne va pas finir, qui a ouvert une scène de conflit assez importante autour de réguler les droits sur l'appropriation des ressources génétiques prises en haute mer. Vous avez trouvé une espèce dont vous faites de la biotech, vous tirez de l'argent, donc les pays riches tirent de l'argent. Quel est le partage qu'on appelle l'APA, c'est-à-dire le partage des avantages? Quelles sont les règles de restitution à la communauté mondiale, aux pays du Sud, des bénéfices qu'on a faits? La conditionnalité environnementale de l'exploitation des ressources minérales qui sont au fond, qu'est-ce qu'on va imposer, et la création d'aires marines protégées, qui va les gérer? Quelle autorité mondiale, quelle autorité régionale, internationale va gérer ça? Et on a ici, en particulier, certains connaissent peut-être, d'entre vous connaissent peut-être Catherine Chabot, qui vient d'être élue parlementaire européenne, qui mène une campagne internationale pour que les Nations Unies reconnaissent l'océan comme patrimoine, pardon, comme bien commun de l'humanité, qui provoque une énorme opposition d'un certain nombre de pays, qui voient une ingérence de la communauté internationale dans les droits qu'ils ont acquis dans la négociation des années 80, les ZEE, etc., et qui ne voudraient pas que l'on avance vers un autre concept qui est beaucoup plus contraignant, qui est celui de l'océan, patrimoine commun de l'humanité, qui là, juridiquement, est énormément contraignant et voudrait dire une ingérence de la communauté internationale, pas seulement dans les droits qui ont été conférés aux États, mais aussi dans les grands groupes privés, dans les grands intérêts privés qui s'orientent vers la mer, et peut-être aujourd'hui, pour parler plus gouvernance, dans la voie politique qui est la plus puissante aujourd'hui, qui est celle des ONG dans cette négociation. Merci.
Merci beaucoup. Moi, c'est vraiment une question de détail, mais alors, quand vous disiez que là, ils allaient peut-être classer ça en patrimoine commun de l'humanité, mais alors il y a des institutions précises qui sont envisagées pour gérer un éventuel patrimoine commun de l'humanité ? Parce que vous avez dit que ça pouvait être contraignant juridiquement, mais quel...
Oui, ben, les institutions, celles du multilatéralisme, celles des conventions... celle du multilatéralisme et celle des conventions onusiennes. Donc on a déjà la convention du droit de la mer qui crée un certain nombre d'institutions. Donc il y a l'autorité de fonds de mer, alors je l'ai en anglais, le Seabed Authority, l'autorité de fonds de mer, qui, si vous voulez une concession pour aller... alors actuellement, on ne fait que de l'exploration, on ne fait pas encore véritablement d'exploitation commerciale, mais qui donne des concessions. Et donc l'idée, c'est d'en créer d'autres. Et aujourd'hui, le débat est entre des pays du Nord essentiellement qui préféreraient un multilatéralisme avec des commissions internationales qui allouent des droits, qui gèrent des aires marines protégées, par exemple, et puis beaucoup dans les pays du Sud, pour éviter cette domination du Nord, une revendication pour des institutions régionalisées. Ce qu'on appelle des conventions des mers régionales qui existent déjà et que ça soit donné aux conventions des mers régionales.
Anne-Sophie. Alors, oui, moi j'ai une petite question, mais qui prolonge celle qui vient d'être posée. Vous disiez à l'instant qu'il y a donc des confrontations entre les pays du Nord et puis le Sud, mais sans avoir précisé, moi je m'interroge sur les acteurs. Dans ces négociations, est-ce que ce sont principalement des acteurs publics, autrement dit les États ou les organisations internationales qui existent déjà ? Vous avez juste à la fin de votre propos évoqué les ONG et je voudrais savoir comment la société civile et donc des acteurs privés s'inscrivent dans cette réflexion sur le statut finalement des océans, de ces espaces maritimes.
Je pense que si vous avez l'occasion de participer à la moindre réunion organisée dans un ministère de manière informelle, une fois sur deux ou plus, vous aurez un représentant du VVF et un représentant de Total. Toujours. Et en fait, les États, les positionnements politiques et stratégiques des États aujourd'hui sont beaucoup plus l'expression des intérêts de leurs acteurs économiques ou de la société civile, alors je ne sais pas si elle est privée celle-là ou si elle est publique, qu'une confrontation comme ça a été au XVIIe siècle, au XVIe ou XVIIe siècle, de deux philosophies entre mare librum, la mer libre ou la mer privatisée publiquement au sens des États, et on est beaucoup plus là-dedans. Et on sent qu'il y a deux choses, il y a le portage de ces intérêts-là. Et ensuite, il y a cette confrontation entre Nord et Sud et essayer de peser dans le sens d'institutions qui laissent des marges, qui ne soient pas toutes sous la domination des pays, des puissances. Puisque certaines comme l'Australie sont au Sud. Mais...
Alors, je vous propose de s'arrêter là.